Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Jacqueline Levenbrux, diffusé en direct lundi 31 décembre 2012 de 18h à 21h. Il sera diffusé en différé mardi 1er janvier 2013 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Merci Jacqueline, merci Benoît qui réalisait cette émission. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct. Je dis bonjour à ceux qui nous écouteront à partir de 9h du matin pour la seconde partie de ce livre journal. Je dis bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 3h30 du matin, qui seront d'ailleurs peut-être un peu plus nombreux que d'habitude, parce qu'il y aura tous ceux qui reviendront d'un réveillon. Et à tous, je souhaite bonne année, en prenant un peu d'avance pour ceux qui nous écoutent en direct. Voilà. Autrefois, je ne voulais pas souhaiter bonne année Bernard Bozzami avant l'heure. J'ai toujours peur que ça porte malheur, mais bon, on m'a dit qu'il ne fallait pas être superstitieux. Donc je souhaite bonne année à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous souhaite une année qui soit pleine de succès, avec bien sûr la meilleure santé possible. Et puis je souhaite une bonne année à notre chère patrie. Et je souhaite aussi une bonne année au monde de la pensée pour qu'il sorte justement de l'obscurantisme qui est en train de le contaminer, comme nous allons bientôt le voir. Car notre sujet, c'est le grand retour de l'obscurantisme. Et j'ai le bonheur de recevoir pour cela Bernard Bozzami, mathématicien de haut vol, président de la Société de calcul mathématique et, accessoirement, mon camarade de promotion de l'École polytechnique.
Oui, mais il y a prescription, ça fait très longtemps.
Il y a prescription, c'était en 1971-72. Et pour combattre le grand retour de l'obscurantisme, j'ai avec moi toujours Laurent Arthur Duplessis, qui est effectivement lui aussi, dans les domaines qui sont les siens, la géopolitique et l'économie, un pourfendeur de l'obscurantisme.
Et oui.
Et voilà. Et je dirais d'ailleurs que ce terme d'obscurantisme alors, est très fort, et un terme un peu moins fort, qui est celui de désinformation, et vous savez que Radio Courtoisie est la radio de la réinformation, concept dont je suis l'inventeur, dont je suis très fier, cher Bernard Bozzami. Évidemment, la réinformation implique, et c'est d'abord et avant tout, la lutte contre l'obscurantisme, bon, et notamment l'obscurantisme scientifique. Alors, le paradoxe, Bernard Bozzami, Laurent Arthur Duplessis, c'est que dans une époque où on ne parle que de la science, et bien tout à coup, on s'aperçoit quand on regarde les choses de plus près que la science sert souvent de véhicule à l'obscurantisme. Alors Bernard Bozzami, comment est-ce possible ?
Oui, merci de m'avoir invité. C'est assez étonnant de parler d'obscurantisme un soir de réveillon. Et je conseille aux auditeurs d'allumer très grand leur lumière pendant que ça leur est encore autorisé. Car d'après l'obscurantisme, nous allons avoir l'obscurité, comme le gouvernement la décide, en particulier le ministre qui s'occupe des économies d'énergie. Mais nous y reviendrons. Donc, effectivement, actuellement, c'est l'ère de l'obscurantisme. Et pour remonter un peu dans le temps, il y a eu le siècle des Lumières, qui était caractérisé par D'Alembert, Diderot, Voltaire. Et à l'époque, on pensait que le progrès intellectuel, le progrès rationnel, pourrait expliquer les choses, expliquer le monde, etc. Et puis, il y a eu, à partir de 1850, les progrès dans l'ère industrielle, et je crois que ça a culminé avec l'apparition de l'électricité, puis de l'automobile, et il y a eu ce qu'on pourrait appeler, au moins en Europe de l'Ouest, et puis aux États-Unis, une période d'enchantement qui a duré grosso modo jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 1950, c'est là que les choses ont commencé à se dégrader. Et ce que j'entends par obscurantisme est un phénomène très général dans lequel on constate que les gens ne font plus attention aux données, ils ne font plus attention aux faits, ils ne font plus attention à l'information objective, et ils remplacent ceci, tout ceci, par une sorte de consensus, par des ensembles de croyances. Alors chaque peuple, chaque parti a ses croyances qui peuvent être différentes. Mais par le passé, ou du moins au temps de Voltaire, on pensait qu'il pouvait y avoir une sorte de vérité objective, et maintenant elle a disparu. Et ça a culminé avec le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, qui date d'il y a maintenant 2000, enfin, une dizaine d'années, a vu l'émergence d'associations dans lesquelles auxquelles on posait des questions sur la société. C'était lié au réchauffement climatique, c'était lié à tout un tas de choses qui sont des problèmes d'essentiellement scientifiques. Mais les scientifiques n'étaient même plus invités pour discuter de ces questions-là. Il y avait consensus auprès d'associations. Et c'est là que l'obscurantisme se manifeste le mieux. Et à l'heure actuelle, on va avoir un second débat sur l'énergie. Il y en a déjà eu un. Il y a une dizaine d'années, on ne sait pas bien à quoi ça va servir. Maintenant, la doctrine est systématiquement celle des économies d'énergie. Donc, quelques conclusions qu'il y a sera, ou quelques conclusions qu'il y aura, sera d'économiser l'énergie dans tous les cas de figure. Et ceci relève de l'obscurantisme.
Oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que ça va peut-être surprendre, mais il n'y a aucune raison de postuler par principe qu'il faille économiser l'énergie.
C'est un pléonasme, postuler par principe.
Oui, j'ai commis un pléonasme. Mais le cochon n'est que pour les fautes
d'anglicisme. Pour les pléonasmes en anglais.
Pour les pléonasmes en anglais.
C'est pas grave, on vous pardonne parce que c'est le réveillon.
Voilà. Bon, alors cela dit, mis à part cette remarque caustique, que répondez-vous sur le fond ? Qui était juste, hein, vous avez raison.
Je ne sais pas si j'ai raison, c'est une constatation historique, il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort. C'est une évidence, si vous voulez. C'est une évidence que je qualifierais de sociologique, mais le mot est excessif.
Non, mais ma question c'était... Pourquoi refuser la thèse officielle que peut-être beaucoup d'auditeurs avaient à l'esprit hein, avant de commencer à nous écouter, qu'il ne soit pas forcément nécessaire d'économiser l'énergie ?
Eh bien, d'abord, aucune civilisation ne l'a fait avant nous. Très récemment, enfin, c'est dans les années 60, John Kennedy disait...
John Fitzgerald Kennedy.
Oui, je le traduis en français parce que comme ça, je vais m'attirer vos foudres.
Non, on n'est pas obligé de traduire. Enfin, on peut traduire.
Nous voulons aller dans la Lune, sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et c'était dans l'époque de Kennedy, ça. Et donc, il y a une cinquantaine d'années. Et on ne dirait plus une chose comme celle-là aujourd'hui. Nous avons perdu du fait de ces économies d'énergie. Il y a deux principes qui, en quelque sorte, sous-tendent cet obscurantisme. Le premier, c'est les économies d'énergie. Et le deuxième, c'est le principe de précaution. Et les deux mis côte à côte, ou bout à bout, comme vous voudrez, eh bien, font en sorte que notre civilisation n'a plus ces motivations qu'avait Kennedy, mais bien, bien d'autres avant lui. Je vais dire grossièrement, si vous voulez, qu'aucune des découvertes que nous avons faites au cours des 500 dernières années ne serait possible aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles sont condamnées par les principes de base de notre civilisation actuelle.
Ah, principe de base, c'est un pléonasme aussi.
Non.
Bon, je suis désolé, c'est un pléonasme. Alors écoutez, passons, continuez.
Merci, c'est très aimable. Par exemple, l'invention de l'imprimerie. Elle serait condamnée instantanément aujourd'hui car les caractères d'imprimerie étaient en plomb. Et le plomb est un métal toxique. Donc la juge Marie-Odile Geoffroy-Bertola-Geffroy, un nom comme ça, là, eh bien, elle mettrait en prison Gutenberg, comme elle a essayé de mettre en prison des tas de gens, la plus récente étant Martine Aubry.
Je fais une parenthèse qui me fait penser, excusez-moi, mais pour ce qui est de l'amiante, il est certain que l'amiante a provoqué beaucoup de cancers. Mais combien de morts par incendie a-t-elle épargné, l'amiante ?
Je ne saurais pas répondre.
On ne le dit jamais. Moi, j'aimerais bien que quand on nous fait un bilan historique sur l'amiante, on fasse le rapport entre le bénéfice et les inconvénients. L'amiante a certainement causé beaucoup de cancers. Peut-être moins qu'on ne le dit, mais enfin, beaucoup de cancers. Mais l'amiante est un matériau économique et efficace pour faire que les bâtiments ne brûlent pas. Voilà. Donc, sans amiante, il y aurait beaucoup de gens qui seraient morts par incendie. Ou qui
Ça me paraît évident et nous pouvons systématiser ce type de remarques. Et je crois que le meilleur exemple est celui de l'automobile. Vous lisez dans des journaux très souvent, tous les jours presque, l'automobile est à la base, mettons, de 3 mois de perte d'espérance de vie par personne dans les villes à cause de la pollution. Je ne parle pas des accidents, je parle de la pollution. Donc, on se sert de cet argument pseudo-scientifique pour dire qu'il faut réduire la part de l'automobile, faire des zones sans automobile ou supprimer certaines catégories, etc. Mais comme vient de dire Henri de Lesquin, on ne mesure pas le gain d'espérance de vie dû à l'automobile, qui est considérable. Enfin, il nous permet de nous voir les uns les autres, de nous déplacer, de porter des poids, etc. etc. Non, on vivrait infiniment moins bien sans automobile qu'avec. Mais les gens ont pris un argument pseudo-scientifique de nature épidémiologique en disant l'automobile... Je ne dirais pas qu'elle tue, mais elle apporte des restrictions, des limitations à la durée de vie, ce qui est absurde en vérité.
Alors je dirais aux auditeurs de Radio Courtoisie que souvent l'obscurantisme consiste à dire qu'on sait alors qu'en fait on ne sait pas. Et donc, nous n'avons pas toujours proposé des conclusions inverses.
Pardon de vous couper, Henri.
La parole.
C'est pas...
Oui.
Il suffit de dire pardon de vous couper.
La parole.
Oui. C'était sous-entendu.
Oui.
C'est pas qu'ils disent nous savons, c'est qu'ils disent maintenant nous n'avons plus besoin d'autres arguments, nous sommes entre nous, nous sommes en concile, en conclave, enfin nous avons le groupe qu'il faut, ce groupe a le pouvoir, il s'agit pas d'un pouvoir politique, il s'agit d'un pouvoir, je sais pas comment dire... religieux presque, enfin nous sommes là pour décider, le groupe que nous sommes a pris cette décision, je fais allusion au GIEC en l'occurrence.
Pour le prétendu réchauffement climatique.
Oui, ou pour toutes ces, ou dans le cadre du Grenelle de l'environnement, ou sur bien d'autres sujets, il n'y a plus de débat. Et c'est vraiment très choquant parce qu'il y a quand même deux cadres dans lesquels le débat est nécessaire. D'abord en politique, vous en parliez tout à l'heure. On ne pourrait pas concevoir une démocratie s'il n'y avait pas une opposition reconnue comme étant une opposition. Donc chaque parti accepte l'existence d'une opposition. Et d'autre part, en droit, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire, où nécessairement, un accusé a le droit de se défendre. Et toutes les pièces qui sont portées à la connaissance de l'accusation doivent être portées à la connaissance de la défense, sans quoi il y a cassation.
Alors,
eh bien, en science, ça n'est pas le cas. En science, il n'y a plus débat à l'heure actuelle, et même, on considère qu'il ne doit plus y avoir débat. Il y a un consensus qui relève de l'obscurantisme. Vous aurais-je coupé la parole ? C'était une erreur de ma part. C'était malencontreux.
Je vous en prie, ça n'a aucune importance.
Ah si, quand même.
Mais parce que je pensais à beaucoup de choses en vous écoutant. D'abord,
c'est gentil, ça.
Je voudrais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que c'est un sujet complexe, en fait. Hein, donc, et que nous ne voulons pas proposer des solutions simplistes à des problèmes compliqués. Et je vais donner un exemple qui m'a beaucoup déstabilisé lorsque je l'ai appris. Et je ne conclue pas, mais je vous signale simplement, c'est une information. J'ai appris qu'au ministère de l'Intérieur, on avait fait une étude sur une étude de rationalisation des choix budgétaires. Que l'expression n'est plus à la mode, mais elle consiste à dire, voilà, telle politique est-elle bonne pour la collectivité, contribue-t-elle au bien commun ? Et on fait le calcul coût-avantage. Et en l'occurrence, c'était la politique de limitation de vitesse. Alors évidemment, moi j'ai toujours été un grand partisan de la politique de limitation de vitesse, bien qu'il m'est arrivé d'être condamné pour excès de vitesse, Laurent Arthur Duplessis. Mais, 60 pour 50, hein, bon. Mais, l'avantage de cette... Le bénéfice de cette politique, c'est évidemment qu'on réduit le nombre des morts, qu'on réduit le nombre des blessés, qu'on réduit le nombre des accidents, etc. Bon, les dommages corporels. Mais, on ne tient pas compte d'un inconvénient majeur, qui est le ralentissement de la vitesse de circulation. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du coût économique considérable représenté par les millions d'heures, et sans doute les centaines de millions d'heures, qui sont perdues par les automobilistes, qu'on oblige, sur des autoroutes qui sont faites pour rouler à 180 à l'heure, à rouler à 130 au maximum, ou parfois à 110. Et ça fait, le drame, c'est que le calcul honnête, je pense, fait peut-être un calcul faux, je ne l'ai pas vérifié, je n'en ai pas les moyens, je n'ai même pas l'étude en main d'ailleurs, que quand les ingénieurs du ministère de l'Intérieur ont fait le calcul, ils sont arrivés à la conclusion que le bilan économique de la politique de sécurité routière était, de la politique de réduction des vitesses en tout cas, était négatif. Voilà. Alors je vous dis pas que c'est vrai, enfin ce qui est vrai c'est que cette étude existe et qu'elle a cette conclusion, paradoxale, mais ça montre bien que sur un sujet qui est apparemment aussi simple, et là je ne parle pas de la liberté individuelle, je parle simplement du bien collectif à additionner, eh bien il y a un vrai problème qui est qu'on n'a pas tenu compte de la perte de temps. Alors évidemment, on peut répondre que si le temps supplémentaire des automobilistes est consacré à écouter Radio Courtoisie, et notamment à écouter Bernard Bozzami et Laurent-Arthur Duplessis, ce n'est pas un temps perdu et que c'est au contraire un bénéfice et non pas un coût. D'accord.
C'est vraiment extraordinaire comme retombée. On n'aurait pas pu imaginer une phrase aussi belle et aussi bien construite.
Bon.
Ce que vous dites est juste, mais s'étend à un grand nombre de sujets. Nous avons eu récemment à faire une étude pour Aéroport de Paris.
Vous, c'est la société, c'est Bernard Bozzami, la société de calcul mathématique.
Oui, mais peu importe. C'était sur la conséquence du bruit sur les riverains, et les riverains souhaitaient une réduction des mouvements des aéroports, des mouvements des avions, comme on souhaite une réduction des mouvements des voitures, etc., etc. Sauf que la conclusion est la même, c'est-à-dire que si on réduit l'activité de l'aéroport, eh bien c'est l'activité économique tout entière qui va en souffrir. Et donc si on se limite simplement aux gènes auditives, eh bien, comme de même que si on se limite aux morts sur la route, on réduira la vitesse. La meilleure vitesse pour pas avoir de mort, c'est zéro. Mais après, il n'y a plus d'activité économique. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire. On oublie la moitié du problème.
Alors vous avez pris deux exemples, deux éléments de comparaison qui amènent justement à s'interroger. Vous avez dit, mais en politique, tout va bien parce qu'il y a, une majorité, une opposition, et que chacun reconnaît qu'il doit y avoir une opposition. Ouais. Et devant les tribunaux, on a le droit d'apporter la preuve contraire.
Bon. Non, c'est plus que ça. C'est le principe du contradictoire.
Principe du contradictoire. Alors... Je dois dire qu'il y a sur la politique, pour la politique, une grosse exception en pratique, c'est la diabolisation d'une opposition qui sort du consensus, car là aussi on retrouve le consensus. Donc quand vous avez un parti politique, par exemple le Front National, qui est contre l'Union européenne, contre l'euro et contre l'immigration, eh bien en fait, le beau principe de respect de l'opposition ne fonctionne pas très bien. Voilà. Donc il y a des limites extrêmement fortes en matière politique. En matière de justice en France et même à l'étranger, il y a une grosse exception. C'est la loi Guessot du 13 juillet 1990 qui interdit, qui condamne à des peines de prison la contestation des crimes contre l'humanité, et qui interdit de débattre de ce sujet historique. Bon. Et on a jeté en prison des gens pour ça. Il faut savoir que lorsque Robert Faurisson, le grand historien révisionniste français, a des procès, ce qui arrive moins souvent maintenant parce qu'il doit être plus prudent, eh bien, le tribunal a refusé de l'écouter, parce qu'il prétendait apporter des preuves à ses arguments, il prétendait avoir des arguments. On a refusé de l'écouter en lui disant c'est impossible. Même chose aux États-Unis, au Canada, le procès Zundel, un procès très célèbre, où le militant révisionniste Ernst Zundel avait été jeté en prison, et. On a refusé à ces témoins d'argumenter sur sur le débat historique en question, le débat historiographique, en disant non, on ne peut pas discuter de ce qui est considéré comme évident. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des limites très sérieuses à cet élément de contradiction, à ce principe du contradictoire qui devrait être total.
Et est-ce que, justement, j'ai écouté avec une grande fascination votre très 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 brillant historique sur l'évolution du religieux et du rationnel, en quelque sorte. On pourrait se poser la question suivante. Dans la mesure où le religieux s'est beaucoup dévitalisé en Occident, est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert...
Sauf pour l'islam.
Oui, sauf pour les
saints. Le religieux islamique, lui, au contraire.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu un transfert, justement, du sentiment religieux dans des domaines où il ne devrait pas être, c'est-à-dire, justement, les choix économiques, etc., les énergétiques, et ainsi de suite. Et je dis ça parce que ce qui est frappant, et vous le décriviez extrêmement bien, c'est que les cénacles... qui décident d'administrer la vérité à nos sociétés, le font sans examiner les données objectives et le font uniquement en répondant à des sortes de pulsions irrationnelles que l'on pourrait assimiler peut-être à un panthéisme d'ailleurs mal digéré, mais qui, en tout cas, procède plus du sentiment religieux, fut-il dévoyé, que de l'approche scientifique et rationnelle. Et justement, d'Alembert, Diderot, Voltaire, considéreraient, vous les avez cités à bon escient, considéreraient avec le plus grand intérêt ces attitudes de Cénacle aujourd'hui administrant des vérités sans s'intéresser aux données objectives.
Ça n'est pas réellement un sentiment religieux, c'est pire que ça, si j'ose dire. Il y a eu une grande période d'obscurantisme, la principale dans l'histoire de l'humanité, qui s'est étendue entre Aristarque de Samos, vers 300 avant Jésus-Christ, et Copernic, vers 1500. Donc pendant 1800 ans environ, l'humanité a oublié que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui est quand même remarquable. Et on est en train, et c'était à l'époque, donc c'était des conséquences religieuses essentiellement, mais enfin, c'était l'idée de base était que l'homme était au centre de l'univers. Et, c'est pour ça qu'on considérait que la Terre était immobile. Et on est en train de revenir à cette idée fondamentale selon laquelle l'homme est au centre de l'univers. Attends,
sur les faits historiques.
Et selon lequel l'homme, en quelque sorte, est là pour gouverner la planète. Donc ça n'est pas religieux, c'est une sorte d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme.
Je voudrais faire un peu de révisionnisme à propos de l'affaire Galilée, parce qu'effectivement, Galilée a eu...
Non, mais ça c'est ancien, c'est sans intérêt, là, maintenant. C'est pas...
Galilée, c'est très intéressant.
La remarque
n'est pas pertinente, mais... l'affaire Galilée est quand même intéressante parce que vous dites, on voulait que l'homme fût au centre du monde, mais il faut quand même savoir que Galilée, lorsqu'il a dit « et pour si mauvais », et pourtant elle tourne en disant que la Terre tournait autour du Soleil, ne faisait que reprendre la théorie de Copernic, le polonais Copernic. Copernic était un moine, et le moine Copernic n'a jamais eu le moindre ennui avec l'Église. L'Église a inquiété Galilée, non pas à cause de sa théorie héliocentrique, qui était la bonne, non pas parce qu'il disait, comme Copernic avant lui, que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, mais parce qu'il se permettait de discuter de l'exégèse de l'Ancien Testament. Donc il s'était risqué sur un domaine d'exégèse, d'interprétation des textes sacrés, où l'Église a considéré qu'il n'avait pas à se commettre. Bon. Donc voilà, Copernic n'a eu jamais aucun ennui pour sa théorie copernicienne. Donc voilà. Alors revenons à l'époque actuelle. Est-ce que vous croyez que cet obscurantisme que vous dénoncez est propre aux questions écologiques ou est-ce qu'il n'est pas plus général ?
Il est plus général. Il tient à ce que maintenant, on considère que la place de l'homme est à nouveau essentielle dans l'univers et en particulier essentielle pour cette planète-ci. En vérité, tous les faits scientifiques montrent que l'influence de l'homme sur la planète est infime et que la planète n'a absolument rien à fiche de la présence de l'homme. Elle s'est débarrassée de grand nombre d'espèces vivantes par le passé, espèces animales ou végétales, et le jour où elle voudra se débarrasser de l'espèce humaine, elle le fera très facilement. Pour l'instant, l'homme croît et multiplie, nous sommes actuellement 6 milliards et quelques, il n'y a aucune raison de considérer que nous gênons en quoi que ce soit la nature, et par conséquent, toutes ces gesticulations sont simplement le fait de gens qui veulent se considérer comme importants, c'est tout. Et c'est ça l'obscurantisme. C'est plus que religieux.
C'est le succès de cette théorie carbocentrique selon laquelle les émissions de gaz carbonique dues à l'homme seraient la cause d'un réchauffement fatal qui rencontre une faveur religieuse. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, je crois. Alors, à l'origine, lorsque Arrhenius, à la fin du XIXe siècle, conçoit cette théorie, c'est une théorie scientifique, comme une autre, voilà. Mais il pense que le CO2, le gaz carbonique, va créer un effet de serre, et que cet effet de serre va réchauffer la planète.
Le réchauffement climatique n'est que l'un des aspects. Le principe de précaution, par exemple, sur le plan de la logique, n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Mais l'ensemble considère maintenant que nous sommes dans une civilisation close, dans laquelle il faut faire des économies, et que notre but est maintenant de préserver l'ensemble des acquis, de fermer la porte, et de vivre dans un cocon. Et ça a beaucoup de manifestations de types différents, et le réchauffement climatique n'est
qu'une
d'entre elles.
Je crois vraiment que c'est encore plus large que vous ne le dites. Non, vous voulez, Laurent de Bessy, oui.
Oui, je voulais dire, je suis frappé quand même de l'analogie qu'il y a avec certains peuples primitifs, je pense aux Amérindiens, etc., qui constamment craignaient d'offenser la Terre, de la blesser et de la traumatiser, par tel ou tel excès, entre guillemets, qu'il craignait de commettre.
C'est exactement
et
la c'est, même chose.
Et on est tout à fait dans cette sensibilité actuellement.
Ouais. On est tout à fait dans cette sensibilité. Et la comparaison avec un peuple primitif me paraît extrêmement pertinente.
Oui, mais
D'où l'obscurantisme.
Oui, mais crois...
la précédente période, il a fallu 1800 ans pour en sortir.
Ouais, alors écoutez, premièrement, je crois que l'obscurantisme dépasse les bornes de l'écologie et de tout ce qui s'y rapporte.
C'est absolument.
Nous avons créé au Club de l'Horloge en 1990 le prix Lysenko. Alors il faut peut-être rappeler qui était Lysenko. Ce prix Lysenko est un prix d'ironie, un anti-prix qui est décerné à des auteurs ou des personnalités pour stigmatiser, pour jeter l'opprobre sur pour les blâmer, non pas pour les louer. Et tous les ans, donc, nous avons des lauréats, entre guillemets, que nous distinguons pour la désinformation scientifique ou historique à laquelle ils ont procédé. Or, nous apercevons que le domaine du lysenkisme est très varié. Pourquoi on nous parlait de lysenkisme ? Parce que Lysenko, Trofim Lysenko, était un Ukrainien, un biologiste ukrainien, qui était le chouchou de Staline et ensuite de Khrouchtchev, qui d'ailleurs a fini ses jours paisiblement comme membre de l'Académie des sciences soviétiques. Et Lysenko ne croyait pas à la génétique. Et Lysenko n'était pas, contrairement à ce qu'on dit trop, un charlatan incompétent. Il était très compétent, mais il ne croyait pas. Et pourquoi ne croyait-il pas à la génétique? Pour une raison simple, c'est que c'était un marxiste de bon aloi et qu'il avait compris que la génétique était incompatible avec le marxisme et sa prétention de créer l'homme nouveau. Et donc, il s'est opposé. Alors, il faut voir que les preuves à l'époque étaient quand même beaucoup moins précises en ce qui concerne la génétique. On n'avait pas trouvé la double hélice d'ADN. Hein. C'était donc, on n'avait pas tous les moyens de départager les théories. Et donc, il était partisan. Il refusait la génétique. Bon, la génétique du moine Mendel. Il disait, non, c'est une doctrine qui a été inventée par un moine. Et du coup, on a persécuté les généticiens en Union soviétique. Et donc, Lysenko, le paradigme du savant qui opprime ceux qui ne sont pas de leur avis, de son avis. Et donc, le prix Lysenko nous a amené à voir que dans beaucoup de domaines, il y avait du lysenkisme. Et notamment dans le domaine de l'histoire. Tenez, par exemple, lorsque on écrit un livre sur comment s'appelle l'auteur de ce livre sur Aristote de Mont-Saint-Michel.
Ah oui,
Guggenheim. Sylvain Guggenheim. Aristote de Mont-Saint-Michel. Sylvain Guggenheim fait un livre qui est quasiment une thèse, enfin une historiographie qui montre que effectivement, contrairement à ce qu'on a dit, les livres traduits du grec n'ont pas été traduits seulement par les Arabes, mais qu'ils avaient été conservés à Byzance, qu'ils avaient été conservés aussi dans les monastères de l'Occident. Et donc expliquer que la pensée antique libératrice n'était venue en Europe occidentale qu'à travers le filtre, l'apport arabe ou arabo-musulman, était une imposture. Bon, et ça a été un scandale. Il a été traîné dans la boue. Il a été victime d'une campagne épouvantable, alors que sa thèse était une thèse historiographique qu'on peut toujours discuter certainement, mais qui je crois très solide. Voilà un très bon exemple. Bon. Autre exemple qui n'a rien à voir avec la nature, avec l'écologisme, encore qu'il s'agisse de biologie. Tout le monde peut, en circulant dans la rue à Paris ou en circulant dans le monde, voir que l'humanité est une espèce divisée en races humaines. Il y a des races, bon. Des blancs, des noirs, des jaunes. Eh bien, un certain nombre de biologistes, pour des raisons purement idéologiques, soutiennent que l'humanité n'est pas divisée en races, qu'il n'y a pas de race. Et c'est devenu, en quelque sorte, la doctrine officielle. C'est-à-dire qu'on vous oblige à croire le contraire de ce que vous voyez. Alors, je ne simplifie pas. L'espèce étant une espèce, et les races n'étant pas des espèces, il y a toutes sortes de métissages, et donc la situation réelle est complexe. Mais quand on regarde les choses de près, on voit bien que l'analyse génétique confirme, en gros, ce que chacun peut voir, c'est-à-dire que l'humanité est divisée en 3, 4 ou 5 races, dont les principales sont la race...
Et même l'industrie pharmaceutique, maintenant, travaille beaucoup sur ces schémas-là, puisqu'on a pu constater que certaines molécules thérapeutiques avaient un effet différent selon l'appartenance ethnique.
Oui, bien sûr, évidemment, l'appartenance raciale, pas ethnique. L'ethnie, c'est culturel. Donc l'ethnie n'a rien à faire là-dedans.
Voilà.
Je vais vous donner un troisième exemple, et ensuite je vais m'arrêter là, je voulais rendre la parole. Mais
vous êtes très aimable.
L'exemple du seuil de tolérance. L'exemple du seuil de tolérance, Bernard Bozzoli.
Le mien est très élevé.
Non.
Vous ne franchirez pas.
Lorsque les sociologues américains de l'école de Chicago ont travaillé sur l'évolution de la composition de la population des villes dans les années 1920, Ils ont observé ce que tout le monde pouvait observer, enfin ils ont analysé le phénomène qu'on appelle en anglais le white fly, c'est-à-dire la fuite des blancs. Il y a une rue de Chicago, de New York, où il n'y a que des blancs. Arrivent des noirs qui viennent du sud des États-Unis, qui s'installent. Au début, rien ne se passe. Et puis à partir d'un certain seuil, 10%, un peu moins, un peu plus, les blancs s'en vont. Le prix des appartements diminue, le prix des logements diminue, et les blancs s'en vont. Et au bout de quelques années, la rue devient entièrement noire. Et il n'employait pas l'expression de tipping point, qu'on a traduit par seuil de tolérance, mais c'est le point de rebroussement, qui a été forgé plus tard, mais ils ont décrit le phénomène de ce seuil de tolérance. Et dans les années 1980, François Mitterrand, puis Jacques Chirac ont employé l'expression de tolérance. Aujourd'hui, quelqu'un qui l'emploie se fait immédiatement accuser d'être un vilain raciste, alors qu'il s'agit de faits scientifiques. Je rappelle que les sociologues de l'école de Chicago, Park et les autres, étaient des gens de gauche, qui étaient désolés de ce qui se passait. Ils auraient voulu que tout le monde s'aime, que toutes les races se mélangent, mais ils observaient ce qui se passait, et ils étaient assez scientifiques, sérieux, pour l'analyser. Eh bien, il y a eu en France des auteurs qui ont expliqué que le seuil de tolérance n'existait pas, contre toute évidence. Alors, c'est un phénomène compliqué, mais si des quartiers entiers sont devenus purement des quartiers d'immigration, c'est parce que le phénomène du seuil de tolérance a fonctionné. Et c'est comme ça que les Blancs sont partis, sont allés dans les zones périurbaines, et vous voyez d'ailleurs qu'on a analysé le vote Front National aux dernières élections législatives, ou élections présidentielles, c'était très frappant. Le vote Front National est surtout fort dans les zones périurbaines, parce que ce sont ceux qui sont partis, qui ont quitté les quartiers où ils vivaient avec les immigrés, parce qu'ils ne supportaient plus cette cohabitation, et ils sont partis. C'est un phénomène sociologique. Bon, vous avez là des vérités sociologiques, qu'on peut trouver scandaleuses, dommageables, tout ce que vous voulez, mais qui sont des faits. Bon, eh bien, ces faits eux-mêmes, on ne veut pas les entendre ni les analyser correctement. Qu'en pensez-vous ?
Je suis d'accord, sauf que ceci est une description trop partielle de la réalité. Ce que vous dites là, je l'ai rencontré depuis longtemps dans bien d'autres sujets. Et par exemple, en France, les statistiques d'origine ethnique sont interdites.
Ce qui est une absurdité.
Ce qui est une absurdité pour les raisons que soulignait mon voisin, à savoir qu'on en a besoin pour des études médicales. Par exemple, l'impact de telle et telle maladie, sa prévalence, la manière dont elle se propage, va être différente selon ce qu'on appellerait la race, selon les antécédents, etc. Les caractéristiques corporelles aussi. Et puis l'éducation va être différente.
Vous avez la même chose pour l'inclination sexuelle. Bon. Il se trouve que...
Je croyais que vous m'aviez laissé la parole, mais ça n'était qu'une apparence.
Le risque qu'un homme soit contaminé par le virus du sida est beaucoup plus fort s'il est homosexuel. Bon, pour des raisons sur lesquelles on n'épilogue pas.
Je parlais d'obscurantisme et vous parlez d'homosexualité. Nous ne sommes pas au même niveau, mon pauvre.
Non, l'obscurantisme, cher Bernard Bozami, c'est de dire « Je ne veux pas... » Il avait été question. Hein, « Je ne veux pas que l'on demande aux gens s'ils sont homosexuels ou pas, et qu'on exclue les homosexuels masculins des dons de sang, parce que ce serait une exclusion. Bon, en fait, il faut tenir compte de tous les paramètres objectifs, sans porter aucun jugement moral, ce n'est pas le lieu, simplement pour juger des facteurs de risque. C'est tout. Bon, il n'y a pas d'autres raisons de le faire. Et heureusement, le gouvernement actuel, d'ailleurs, a refusé de mettre fin à l'exclusion des donneurs homosexuels masculins pour les
sang. Laurent Fabius, qui a vu sa carrière hypothéquée par le scandale du sang contaminé, a dû laisser un souvenir, probablement.
Oui, il a été effectivement compromis de cette affaire. Bernard Bozami.
Ce qui m'ennuie, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'en vérité, les scientifiques en sont largement complices. Ce que vous décrivez à l'instant, qui est tout à fait correct, ne pourrait pas se produire si la communauté scientifique ne s'y opposait de manière suffisamment vigoureuse. Or, la description que vous avez faite du lysenkisme, eh bien, elle est vraie en France au XXIe siècle, au XXe et au XXIe siècle aussi. C'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de scientifiques qui sont maintenant la majorité, qui représentent les corps constitués, les académies, etc., qui vont prendre des positions dans le sens de celles que vous venez d'indiquer. Et par conséquent, le gouvernement s'appuiera dessus. Le gouvernement n'est pas fautif, en l'occurrence. Ceux qui sont dépositaires du savoir, ce sont les scientifiques. S'ils ne réagissent pas, eh bien, c'est normal que les choses aillent dans cette direction. Ce sont ceux qui sont formés, qui sont normalement les dépositaires du savoir. L'attitude des scientifiques à l'heure actuelle me gêne considérablement. Cette main levée signifie-t-elle que je dois me taire ?
Pas du tout, non, je vous en prie.
Notre antenne, c'est Radio Courtoisie.
Alors, cher Bernard Bozami, non, vous n'êtes pas là pour vous taire, vous êtes là pour parler, pour témoigner de la vérité scientifique. Enfin, de la vérité, pas de la vérité, mais disons des critères qui permettent éventuellement d'arriver à la vérité scientifique.
Il n'y a pas de critères, il faut accepter le débat, comme vous le disiez tout à l'heure à propos des sujets de société, mais encore plus sur les sujets scientifiques. C'est pas acceptable que sur un sujet qu'on vient de découvrir, comme le champ magnétique terrestre, ou comme l'évolution de l'atmosphère, ou les courants sous-marins, eh ben on déclare du jour au lendemain, la discussion est terminée. Ça n'a pas de sens.
On pourrait d'ailleurs, je voudrais justement rebondir sur ce que vient de dire Bernard Bozami concernant la responsabilité des cénacles scientifiques qui laissent s'établir cette emprise de l'irrationnel et de l'obscurantisme. Et je crois que cela renvoie au problème des idéologies dominantes. C'est-à-dire que les scientifiques sont immergés dans un corps social, ils sont immergés dans un climat intellectuel, et ils subissent des pressions sociales, des pressions médiatiques, des pressions culturelles. Et je pense que donc ils doivent tenir, ils sont influencés à leur corps défendant peut-être, ils sont influencés par l'idéologie dominante. Je prends un exemple très concret. Un scientifique qui voudrait dans un grand média, un média de masse, un médium de l'oligarchie, qui voudrait dire tout ce que vous dites là. Je pense qu'il n'aurait guère droit de citer parce qu'il contreviendrait à l'idéologiquement correct, au culturellement correct, et donc il serait relativement tenu à l'écart de ces plateaux de télévision-là et ces studios de radio-là. Et là, il y a une pression médiatique très 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 forte qui canalise la communication de masse en fonction des critères de l'idéologie dominante. Tout ça exerce des pressions.
Oui, non, enfin, certainement.
Bernard, vos amis.
Vous avez raison. Enfin, moi-même, j'ai été 16 ans professeur d'université. Un professeur d'université, c'est titulaire, et ça gagne ses sous à la fin du mois, quoi que les déclarations puissent être. À l'heure actuelle, vous avez raison de dire que quelqu'un qui dirait, par exemple, ce que je dis à l'instant, ne serait pas invité à la télévision. Soit, mais il y a Internet partout, maintenant. On peut très bien se faire connaître, on peut très bien faire connaître les idées qu'on a envie de faire connaître, et on sera peut-être mis à l'écart, mais il y aura quand même des gens qui le recevront. La liberté de parole existe, et la pression que vous mentionnez, elle est plus un alibi qu'une réalité. Quelqu'un qui est professeur titulaire peut parler, il lui arrivera rien. Claude Allègre, à un moment, il a dit un certain nombre de choses relativement intéressantes. Ça lui a coûté une place de ministre. Et après, il n'a pas été relégué en Sibérie, que je sache.
Ah non, mais écoutez, et après, pour vous, ce n'est pas important, mais pour lui, c'était certainement important.
Oui, ben justement, c'est là que le bas blesse.
Alors,
pour
non,
moi,
mais
c'est
attendez,
pas important.
Il y a, non, mais là, vous n'avez évoqué, Laurent Arthur Dupessis, qu'un seul facteur pour expliquer cette dérive de la communauté scientifique. C'est le facteur médiatique. Bon. Les scientifiques aiment bien qu'on parle d'eux, aiment bien parler dans les médias, et donc ils préfèrent aller dans le sens du vent.
Il y a aussi le financement.
Mais, et j'allais le dire, la deuxième raison, oui. c'est le financement.
Oui.
Donc quand vous exonérez Bernard Bozzomi un peu vite les politiques de leur responsabilité, parce qu'ils pourraient se méfier quand même de l'avis des sages ou des prétendus sages.
Les torts sont partagés, mais moi j'ai envie de dire que les torts sont à 90% du côté des scientifiques. Si les politiques font des bêtises par ignorance, c'est vraiment par ignorance.
Écoutez, l'ancien ministre socialiste, monsieur Claude Allègre, était très proche de Sarkozy à un moment donné. D'ailleurs, il rêvait d'être ministre de Sarkozy. Il ne l'a pas été, comme l'a rappelé Laurent Arthur Dupessis, à cause de ses positions anti-réchauffement climatique, ou anti-réchauffiste. Mais il pouvait expliquer à M. Sarkozy ou à M. Fillon, son Premier ministre, ce qu'il en était en réalité de scepticisme qu'on pouvait avoir sur le test carbocentrique du GIEC. Bon, donc,
pardon de vous interrompre. On n'arrivera pas à convaincre les politiques, ou du moins pas à court terme, parce que nous sommes dans une période d'obscurantisme et qui considère que la population va voter de telle et telle manière. Par contre, on peut s'exprimer, comme je le fais maintenant avec votre aide, et expliquer à la population en général, aux décideurs, c'est-à-dire par exemple aux maires, aux médecins, etc., qu'il n'y a pas lieu de se réfugier derrière le principe de précaution. Et un certain nombre d'entre eux nous écouteront.
Et bien alors, je voudrais vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qui explique justement que les cénacles scientifiques n'assument pas leur responsabilité ?
La lâcheté.
Mais la lâcheté face à quoi ?
La lâcheté, par définition, c'est tient à leur gène. Ils ont été élevés comme ça, c'est tout.
Mais oui, non, mais la lâcheté, ça veut dire que l'on a peur de quelque chose.
Ouais.
Et que l'on se prémunit contre ce que l'on croit être un danger.
Laurent Duplessis, le courage et l'intelligence sont deux choses très différentes.
Oui,
et pour être un scientifique, mais surtout pour être un bon scientifique, il faut être intelligent. Non, il ne faut pas être courageux.
Oui, je sais, mais j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que Bernard Bozzomi disait tout à l'heure, il ne risque rien. ces universitaires, par exemple, qui se taisent. Pourtant, s'ils parlaient, ils ne risqueraient rien. Donc, où est la lâcheté
Ils ont peur d'être discrédités aux yeux de l'opinion.
Ah ben
quelqu'un
voilà.
qui est scientifique éminent, professeur au Collège de France, par exemple, il a besoin d'une espèce de reconnaissance de ses pairs, du milieu intellectuel, etc. Et s'il est marginalisé, eh bien, il en souffre. Sauf que tous les grands découvreurs par le passé étaient des marginaux.
Alors justement, j'allais vous le dire, Bernard Bozzami, est-ce que ce phénomène d'obscurantisme n'est pas l'amplification d'un phénomène permanent dans l'histoire des sciences, à savoir que, je ne parlerai pas de changement de paradigme parce que je n'aime pas beaucoup ce vocabulaire de Kuhn, mais est-ce que les grandes découvertes, comme vous dites, sont dues nécessairement d'ailleurs au fait qu'on a des idées vraiment nouvelles qui sont en contradiction avec l'orthodoxie scientifique présente, et que par conséquent, évidemment, si on explique à un professeur d'université qui a enseigné une doctrine pendant 40 ans, qu'au moment où il va prendre sa retraite, eh bien, cette doctrine est fausse, ou bien est dépassée par une doctrine meilleure, et il se sent dévalorisé. Il n'a pas, et donc, a priori, il va chercher tous les arguments, toutes les objections, pour refuser la nouvelle doctrine, qui souvent d'ailleurs est aventurée, qui n'a pas encore toutes les preuves. La génétique, je parlais tout à l'heure de Lysenko, mais la génétique, en fait, les preuves apportées par Mendel, etc., étaient des preuves encore limitées, hein, on pouvait douter.
C'est pire que ça, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait des gens avec des idées originales. Il y a encore des idées originales, sauf qu'à l'heure actuelle, la pression sociale se fait dans le sens de la médiocrité et du repli.
Voilà.
Et ça conditionne la recherche scientifique.
Voilà.
Quand Kennedy disait « on veut aller sur la Lune », eh bien ça amenait un certain nombre de découvertes scientifiques sur la propulsion, l'aérodynamisme, conduite, etc. Quand on dit aux gens « maintenant il faut économiser l'énergie », ben, ça ne conduit pas à des découvertes, ça.
Non. Alors, je vais donner deux exemples. À propos des accouchements. Bon. Un médecin allemand vers 1850...
Sommelweis.
Voilà. A expliqué qu'il fallait se laver les mains pour réduire le nombre de morts, qui à l'époque était considérable. 20-30% des enfants mouraient dans les maladies périnatales à la suite des infections qu'ils attrapaient pendant l'accouchement. Bon. Et il a dit... on se lave les mains et on va réduire... Et il a obtenu des résultats considérables. Le simple fait de se laver les mains avant de faire l'accouchement, avec un bon savon... réduisait de 20 ou 30%.
Mais ça a été très mal vu à l'époque.
Ça a été très mal vu. Il a été en but. On lui a dit, mais c'est grotesque ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'une chose aussi simple que de se laver les mains peut avoir cet effet? Et voilà, c'était un marginal qui a apporté une...
Pareil avec Claude Bernard. Sa femme et sa fille ont adhéré à une association qui défendait les chiens contre la vivisection.
Ça n'a rien à voir, ça, c'est la défense de la souffrance, la protection des animaux.
Oui, mais il était obligé, pour faire de la médecine expérimentale, il était obligé de sacrifier quelques chiens.
La souffrance des animaux n'est pas un sujet, ce n'est pas une question d'obscurantisme, c'est une question de sensibilité à la souffrance animale, c'est autre chose.
Oui, enfin, sa femme et de sa fille, c'était une hostilité déclarée.
Non, mais attendez, donc, si on avait fait la vivisection sur des êtres humains, vous auriez peut-être compris qu'on s'y opposa. Bon, voilà. Donc, ça n'est pas une question d'obscurantisme, c'est une question de sensibilité à la souffrance animale.
Mais Bernard Bozzami vient de pointer justement la pression qui s'exercerait sur tel ou tel scientifique qui contreviendrait donc à ce qu'on pourrait appeler au fond une sorte d'idéologie dominante dans le milieu scientifique. Et qui porterait, s'il contrevenait à cette idéologie dominante, tel ou tel scientifique verrait sa carrière freinée, verrait ses publications mises sous l'édredon du silence, se verrait couper l'accès aux médias de masse et au fond considérerait qu'il mène une existence plus terne, moins glorieuse.
Mais attendez, prenons l'exemple de Claude Allègre. Claude Allègre, membre de l'Académie des sciences, Laurent Dupessis, fait un livre contre le mythe, il appelle d'ailleurs le mythe du réchauffement climatique. Bon. Et c'est un socialiste, ancien ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin. Eh bien, son livre, sous prétexte qu'il y avait des erreurs de détail, mais aucune erreur essentielle, suscite un tollé, une pétition de centaines de scientifiques qui le traînent dans la boue.
Ça ne me dérange pas qu'il y ait des pétitions, ça fait partie du jeu démocratique, même en science.
Ça dépend du sens, du contenu des pétitions.
C'est sans importance. En tout cas, on peut encore en France publier des livres. Ça reste libre, mais effectivement...
Ça dépend dans quel domaine, hein, mais...
Oui. Mais...
Mais je crois qu'à chaque époque, il y a une idéologie dominante. À chaque époque, dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des idées, il y a une idée dominante. Les historiens le constatent. C'est une vérité historique.
Oui, alors, nous allons répondre aux questions. Ensuite, je voudrais polémiquer avec l'ami Bernard Bonamy sur sa prétendue philosophie des Lumières.
Et je crois que l'idéologie dominante égalitaire d'aujourd'hui, notamment, dont le noyau est l'égalitarisme, effectivement, bride les vérités scientifiques tous les jours.
Alors Laurent, Arthur Duplessis, nous allons écouter les auditeurs, chère
Vous
Jacqueline.
Vous écoutez le Libre Journal sur Radio Courtoisie, le Libre Journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit pour cette seconde partie Bernard Bozamy, mathématicien, président de la Société de Calcul Mathématique, et Laurent Arthur Duplessis, journaliste essayiste.
Alors je signale quand même que Bernard Bozamy, je ne l'ai pas encore fait, a écrit « Nouvelle méthode probabiliste pour l'évaluation des risques », édition de la Société de Calcul Mathématique, SCM. Il a écrit également, dans le même ordre d'idées, je pense, « Méthode probabiliste pour l'étude des phénomènes réels ». Et il a écrit « Lettre de la SCM, Société de Calcul Mathématique ». Donc c'est une compilation de ces articles, ces éditoriaux qui sont très amusants et très intéressants. Suivi d'un théorème d'Archimède et ses conséquences, il a même écrit un livre en anglais, on lui pardonnera parce que c'est lui, que j'ai traduit en français, « Œuvre moderne d'Archimède », car... Bernard Bozamy a redécouvert tout le génie d'Archimède et a montré qu'il y avait dans la pensée d'Archimède des choses extrêmement puissantes qui sont encore valables aujourd'hui. Et donc ça, c'est très, très, très intéressant. Merci. Et pour les historiens des sciences, c'est une chose absolument passionnante. J'espère que votre livre sera traduit en français. Voilà. Jacqueline.
Alors, une auditrice, en France, et comme aux États-Unis, les immigrés votent à gauche.
Oui. Là, franchement, ça nous écarte du sujet, donc restons au débat sur l'obscurantisme.
Voilà. Alors, ceux qui feraient mettre Gutenberg en prison sont les descendants de ceux qui ont guillotiné Lavoisier. J'habite dans un petit village et...
Plutôt les ancêtres, compte tenu de la chronologie, mais passons.
Une auditrice, j'habite un petit village et je dois dire que tout s'est énormément dégradé. On ne me demande jamais de témoigner sur tout le passé de la France, surtout les années 40, où les communistes ont trahi la France, année que j'ai vécue. Il y a aussi une auditrice qui nous dit que dans les petits villages, les noms de villages, de villes, c'est pareil, ils veulent dire quelque chose bien souvent. Et
quel rapport avec l'obscurantisme scientifique ?
Ben oui, mais il n'y a rien de marqué pour expliquer ce que ça veut dire, quel personnage, etc. Alors l'obscurantisme.
Elle veut dire qu'il faudrait davantage d'explications sur l'origine, de nomastique, comme on dit, ou de toponymie.
Aussi peut-être davantage de projecteurs sur les plaques de rue. Et là, c'est de l'obscurité plus que de l'obscurantisme.
Alors attendez, parce que ce qui ne va pas dans le sens de cette auditrice, c'est le fait que maintenant, de plus en plus, c'est un progrès. En dessous de la plaque rue Albert Artampion, on met
écrivain.
On met écrivain 1912-1987, Albert Artampion, ou bien Albert Artampion, inventeur
de la moulinette à repasser.
De la moulinette à repasser. Voilà, bon.
Alors, pour un auditeur,
parler
d'enchantement pour le 19e siècle qui nous a donné le romantisme, le socialisme, puis le marxisme vulgaire, le libéralisme, du moins dans ses formes extrêmes d'exploitation éhontée des...
Non mais attendez, nous sommes à le sujet, c'est l'obscurantisme scientifique. On n'utilisez pas les questions qui n'ont strictement rien à voir. Franchement, ne perdons pas trop de temps avec...
Excusez-moi.
Les questions sont très intéressantes, chers auditeurs, mais ça nous fait sortir du sujet. Nous ne sommes pas là pour parler de la...
Le problème d'une radio, c'est qu'il y a des auditeurs. C'est quand même... c'est aussi le problème d'une université, il y a des étudiants. Il faut se rendre à l'évidence. Et même ce sont eux qui nous font...
Je ne sais pas si vous en avez parlé de ça.
Quand ils cotisent, Radio Courtoisie, cher ami.
Un auditeur, Gérard de Crémone, grand esprit du XIIe siècle, avait appris l'ara pour traduire à Tolède un grand nombre de textes d'Aristote. Voilà. D'arabe en italien.
Oui, bon, d'accord. Lisez le livre de Sylvain Guggenheim. Voilà.
Alors, vous parliez de l'air tout à l'heure, parce que ça, on revient au début, vous citez les automobiles, vous n'avez pas cité, vous avez cité les automobiles, mais cet auditeur parle des avions qui polluent aussi.
Bien sûr, tout
pollue,
voilà. Oui.
Et puis que dans nos villes, l'air manque d'oxygène et que les hôpitaux sont encombrés de personnes et d'enfants qui souffrent de troubles respiratoires.
Mais c'est très intéressant ça, parce que les gens...
Ça, c'est trop d'obscurantisme.
Oui, mais il faut quand même le souligner. Même les auditeurs de Radio Courtoisie sont complètement persuadés qu'ils vont mourir de quelque chose qui est lié à la civilisation. Et ça, c'est la doctrine absolument dominante de nos jours. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent 40 ans de plus qu'au 19e siècle.
En moyenne.
Et ils sont complètement convaincus qu'ils vont mourir de quelque chose et que ce quelque chose est dû à un méfait de la civilisation. Alors les uns, c'est l'automobile. Les autres, c'est des radiations, des champs électromagnétiques, des perturbations de toutes sortes. Ils vont mourir de quelque chose qui est lié à la
cette croyance illusoire est une des sources de l'obscurantisme, en tout cas de la créance.
C'est la plus manifeste.
D'ailleurs, il est intéressant de considérer la généalogie de cette croyance, puisque le cher Jean-Jacques Rousseau, qui par ailleurs avait énormément de talent, a été...
Un des plus grands écrivains en prose en langue française.
Oui. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais avec son culte de la nature opposée à la civilisation, avait semé ces germes.
Ah bah on peut dire effectivement, alors c'est pour cela d'ailleurs que justement, Jean-Jacques Rousseau, très adversaire de Voltaire, ou plutôt c'était Voltaire, l'adversaire de Jean-Jacques Rousseau, lui était un grand partisan, Rousseau, du retour à la nature, et Voltaire lui reprochait de vouloir faire marcher l'humanité à quatre pattes.
Alors, oui.
C'est
pas fini.
Excusez-moi, chère Jacqueline.
Je vous en prie. Un auditeur, les professeurs d'université sont cooptés, et s'ils ne sont pas dans le droit fil, ils ne sont pas élus.
Ah, c'est vrai qu'avant d'être professeur, il faut d'abord être coopté comme professeur, qui vaut peut-être mieux quand on est maître de conférence, ne pas aller contre la doxa ou l'orthodoxie.
Oui, mais une fois qu'on est professeur, on peut dire ce qu'on veut.
Une fois qu'on est professeur,
on ne peut plus être.
Alors, c'est un autre phénomène. Celui qui a pendant 30 ans vécu le dos courbé ne le redresse plus.
Oui.
Moi, j'ai toujours pensé que des gens qui n'avaient jamais voulu sortir du politiquement correct toute leur vie allaient trouver, avec la retraite, ou bien parce que leur carrière politique était derrière eux, la liberté de parler. Eh bien non, le phénomène psychologique qu'on voit partout, c'est que celui qui s'est couché toute sa vie n'a plus la force de se relever.
Oui, enfin, j'étais professeur titulaire avant 30 ans.
Vous êtes un cas particulier.
Un auditeur. Alors, est-ce que c'est un bon message qui va dans le bon sens?
Mais peu importe,
c'est le toujours, on verra bien.
Non, il faut que ça soit en rapport avec le sujet.
La pensée magique est la conséquence du scientisme et de l'illusion du sacré induite par la puissance technique. Ses dangers, son caractère mystérieux ou incompréhensible à l'ignorant, donc réservé à quelques initiés. Tous ces caractères sont ceux du divin et le nucléaire ou l'informatique les présente tous.
Non, ce n'est pas exact. Pardon de vous couper. C'est exactement le contraire de ce qui s'est produit. Avant que la science ait pu faire quoi que ce soit, les gens ont déclaré que c'était nocif. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est le livre bien connu « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, qui décrit une société totalitaire, égalitariste et tout ça. Avant même que ça se soit produit, le livre date des années 1930 et il a eu des conséquences très fâcheuses. Il est très brillant, ce livre. Le deuxième, c'est l'exemple des robots. Les robots, ça existe à peine à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a quelques machins qui sont robotisés, qui fonctionnent, mais c'est balbutiant, c'est élémentaire. Et bien, vous avez toute une littérature qui explique que les robots vont envahir le monde, coloniser l'humanité et que vous n'aurez plus votre libre arbitre. Donc, avant même que la science ait fait quoi que ce soit avec les robots, les gens ont dit c'est absolument épouvantable, ils vont se retourner contre nous.
Alors, je voudrais quand même.
C'est pas fini.
Pardon,
ce message termine par dans une société sans sacré, sans Dieu, la magie remplace la raison, comme nous pouvons le voir avec la perte de tous les repères. Et puis, le dernier, un auditeur, pourrait-on parler d'épigénétique?
Alors, attendez, l'épigénétique, nous en parlons
plus. Un auditeur nous remercie, Henri, d'être là pour.
Merci. Alors, l'épigénétique, nous en parlons tout à l'heure si nous avons le temps, mais. La question sur la pensée magique qui sera la conséquence du scientisme me paraît intéressante. Parce qu'effectivement, ne peut-il pas y avoir le risque que l'on prête à la science une puissance qu'elle n'a pas, une puissance démesurée, et qu'on tombe ainsi dans une autre forme de superstition, Bernard Bosamy?
C'était le cas pendant les années entre 1900 et la Deuxième Guerre mondiale, où on avait cru à la science, cru au progrès de manière tout à fait excessive. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Maintenant, les gens ont tendance à refuser même les expérimentations scientifiques. Vous voyez les choses sur les OGM, par exemple. L'expérimentation scientifique, même contrôlée, leur fait peur.
Alors, je voudrais revenir sur un débat d'histoire des sciences et d'histoire des idées qui me paraît essentiel. Parce que vous nous avez expliqué, Bernard Bosamy, ce qui est, excusez-moi, mais une idée reçue. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a eu la grande philosophie des Lumières, n'est-ce pas, qui a éclairé l'humanité, la France en particulier, et qui a dissipé les ténèbres qui prévalaient jusque-là. Et donc, ensuite, grâce à cette émancipation qui est survenue au XVIIIe siècle, eh bien, jusque ce grand retour de l'obscurantisme depuis les années 1950, tout allait bien. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Pourquoi ? Parce que d'abord, en Europe occidentale, et en France en particulier, il n'y a pas eu d'obscurantisme. Ron Nestark explique très bien dans Le Triomphe de la Raison que la société chrétienne avait justement cette vertu de croire que Dieu, alors avec l'exception peut-être des miracles, mais les miracles, il n'y en a pas tous les jours, que Dieu avait donné la nature des lois objectives que l'on pouvait pénétrer par la raison. Et donc, en fait, l'essor de la science n'a eu lieu en Europe occidentale, selon Ron Nestark, dans son ouvrage Le Triomphe de la Raison, que parce que il y avait la croyance en un Dieu qui donnait à la nature, à sa création, des lois objectives. Et donc, bien qu'évidemment il y ait un progrès scientifique considérable, les gens qui se penchent sérieusement et honnêtement sur les débats scolastiques du XIIe, XIIIe, XIVe siècle savent très bien que c'était déjà des débats de nature scientifique. Je crois que c'est... je vais dire une bêtise, je ne sais plus comment s'appelle celui qui a énoncé le premier le principe de la quantité de mouvement, mais c'est un scolastique du XIVe siècle. J'ai le nom au bout de la langue. J'ai répondu tout à l'heure, vous pensez que c'était anecdotique, c'était en fait très essentiel pour la question de l'histoire des idées, sur l'affaire Copernic-Galilée. on présente faussement cette affaire en disant que l'Église ne voulait absolument pas remettre en cause la théorie de Ptolémée de
l'héliocentrisme.
Ouais, non, au contraire, elle voulait que la Terre soit au centre du monde.
Le géocentrisme.
Le géocentrisme. Et en fait, le moine Copernic au XVIe siècle avait parfaitement... je ne crois pas qu'il y ait eu une époque de l'obscurantisme, au moins depuis la fin des Mérovingiens. Et il y a eu en fait des débats scientifiques extrêmement ouverts à toutes les époques.
D'ailleurs, l'aristotélicisme au Moyen-Âge a été justement un tournant majeur.
Attendez, je n'ai pas fini dans ma démonstration. Deuxièmement, la philosophie des Lumières, c'est essentiellement une philosophie de propagande politique et idéologique. Ils se sont octroyés le terme de Lumière, bon, comme s'ils avaient découvert la science. Bon, mais ce n'est pas Harvey, ce n'est même pas Newton qui était à l'origine de la philosophie des Lumières. Newton, lui, il croyait toutes sortes de folies il interprétait l'Apocalypse au premier degré.
C'était un mystique.
C'était un mystique qui croyait toutes sortes d'aberrations. Bon. Donc, il y a eu une propagande sur le terme de lumière. Le philosophisme du XVIIIe siècle prétendait remplacer la religion par sa philosophie.
Je vous interromps. La question n'est pas là.
La question est là.
Personne ne dit qu'à l'heure actuelle, les gens ne sont pas rationnels. Ils sont tout à fait raisonnables, tout à fait rationnels et pas du tout idiots. Simplement, ils ont remplacé la nécessité d'avoir des faits et des données par un argument de consensus, ce qui est complètement différent. Maintenant, il n'y a plus besoin de faits objectifs, il n'y a plus besoin de données objectives, il y a besoin de se mettre d'accord sur quelque chose.
Non, mais je suis d'accord, ce n'était pas mon point de controverse.
C'est un paradigme, si je peux employer ce mot, qui est totalement différent. Il n'est pas irrationnel.
Et c'est le paradigme égalitaire.
C'est probablement une conséquence de la démocratie.
Moi, je critique...
Le dévoiement de la démocratie.
Probablement, oui.
Je tiens, parce que ça me paraît très important.
Je crois que M. Delesquin veut parler.
Je crois qu'il est très important de se départir des illusions sur la philosophie dite des Lumières, sur la philosophie du XVIIIe siècle. Et il y a encore un autre point qui est extrêmement important. C'est que, à l'époque, on a cru naïvement que la société pouvait être à l'image du monde physique et qu'on imaginait lui-même régi par des lois très simples. Et ce n'est pas vous que j'apprendrai, puisque vous êtes mathématicien et que je ne le suis pas. Les lois de Newton butent tout de suite sur le problème des trois corps. C'est-à-dire que lorsque on a, avec les lois de la gravitation universelle énoncées par Newton, à étudier le problème des deux corps, un, le Soleil, deux, la Terre, on arrive à résoudre l'équation. Dès qu'on introduit un troisième corps, qu'on ne considère pas comme négligeable l'action de Mars ou de la Lune, à ce moment-là, on ne sait pas trouver l'équation qui permette de prédire le mouvement.
Ça relève d'une limitation des mathématiques, c'est une question d'obscurantisme.
Et le grand Henri Poincaré, à la fin du XIXe siècle, a démontré que le problème des trois corps n'avait pas de solution algébrique. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que toute l'illusion rationaliste ou pseudo-rationaliste, constructiviste comme dit Hayek, qui s'est développée au XVIIIe siècle avec la philosophie dite des Lumières, en fait, repose sur une mauvaise compréhension non seulement de la société, mais même de la nature, qui est beaucoup plus complexe. que ne le croyaient ces gens-là qui pensaient qu'on pouvait faire table rase du passé et qu'on pouvait, que la pensée humaine pourrait tout dominer. Alors il y a d'ailleurs à cet égard une grande confusion à propos de Laplace, parce que la question du déterminisme n'est pas ce qu'on croit. Le déterminisme, ça n'est pas de dire que la nature obéit à des lois. Le déterminisme, au contraire, c'est de dire que la nature obéit à des lois et qu'on fait dire à Laplace ce qu'il n'a pas dit, je crois. C'est-à-dire qu'un homme ou quelques hommes pourraient prévoir toute évolution physique, toute évolution du monde, à condition de connaître les lois.
Je crois qu'on s'égare un peu là, parce que les lois de la nature ne sont pas des lois déterministes, et ça tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'elles sont largement probabilistes. C'est-à-dire qu'il se produit des tas de choses dont les conséquences sont imprévisibles, certaines peuvent même être chaotiques, c'est-à-dire avoir des très grosses conséquences pour une très petite impulsion initiale, mais ça ne change rien à la nature du débat, à savoir que le débat social est faussé à partir de la notion où il y a consensus et pas la recherche de lois de la physique. Que ces lois soient déterministes ou probabilistes, je dirais à la limite, ça m'intéresse comme mathématicien, ça m'intéresse pas.
Moi, ça m'intéresse en tout cas comme mathématicien, comme physicien, ou plutôt comme métaphysicien, c'est-à-dire qu'il est très important de savoir si la nature est ou non déterministe.
Elle ne l'est pas, c'est clair, ça.
Moi, je suis persuadé qu'elle l'est, parce que la probabilité n'est, comme je crois que c'était Henri Poincaré qui le disait, la probabilité, le hasard n'est que la mesure de notre ignorance. C'est parce que nous avons, avec nos faibles connaissances, la nécessité d'avoir recours au calcul des probabilités pour prévoir l'avenir, avec une certaine confiance que le monde n'est pas déterministe. Sinon, s'il ne l'était pas, il n'y aurait pas de possibilité de calcul de probabilité.
On s'éloigne encore plus du débat que dans la lecture des...
Bon, je ne crois pas. Alors revenons maintenant, après ce survol historique, à la question actuelle. Donc,
Je veux dire, je serais ravi de débattre sur la question de savoir si la science est déterministe ou probabiliste, mais on n'en est pas là. On en est à des sujets de société qui tiennent réellement à l'obscurantisme. On aurait remonté au siècle des Lumières, quelle que soit l'acception que vous donniez, si on intervenait ce genre de débat sur la nature de la science. On n'en est pas là aujourd'hui.
On demandait à un auditeur, pourriez-vous nous donner les coordonnées de la Société de calcul mathématique ?
Oui, je peux vous la donner.
Allez-y, donnez tout de suite. Nous le rappellerons à la fin, mais donnez tout de suite, sinon comme ça l'auditeur pourra
noter. Société de calcul mathématique, nous avons un site web, et puis nous sommes au 111 Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e.
Ah oui, 111 Faubourg Saint-Honoré.
Voilà, Paris 8e. Nous sommes dans l'annuaire, enfin partout. Non, mais ce que je voudrais dire surtout, si vous voulez, c'est l'état actuel du débat donne lieu à une régression qui est à la fois sociale et scientifique. C'est-à-dire qu'on s'est réfugié derrière un principe de précaution, on s'est réfugié derrière un développement durable que personne ne sait définir. Qu'on le définisse de manière déterministe ou probabiliste, ça m'est égal. Mais personne ne sait ce que signifie le développement durable. Et le résultat de cette chose-là est une complète, je ne sais pas comment dire, extinction de nos capacités de recherche, de nos capacités de développement social en général. On n'aurait jamais inventé l'électricité, découvert l'électricité, si on avait fait, par exemple, des économies sur les chandelles. Et si on avait dit il faut économiser les chevaux, économiser sur les trajets à cheval, on n'aurait jamais inventé l'automobile non plus. Donc vous remontez dans le temps et vous voyez l'histoire des découvertes. Aucune d'entre elles n'aurait été possible avec les idéologies actuelles consistant à dire on va économiser quelque chose.
Songez au principe de précaution, car l'électricité est effectivement très dangereuse. Combien de gens ont été électrocutés ? Combien d'incendies ont été dus à des courts-circuits ?
Bien sûr.
Donc si on voulait éviter les conséquences dangereuses de l'électricité, il faudrait s'éclairer à la bougie.
Je crois qu'il est temps d'arriver.
Qui est également très dangereux d'ailleurs. Et je me demande d'ailleurs si le principal coupable n'a pas été celui qui, pour la première fois, a frotté deux silex.
Si, sûrement, il faudrait le condamner.
Parce qu'il a provoqué, il a créé... Ouais. On avait sans doute domestiqué le feu, en fait, avant d'avoir su créer le feu.
Bon, mais ce que vous dites est juste, mais par principe, si vous voulez, vous prenez toutes les grandes découvertes de l'histoire de l'humanité, aucune ne serait possible actuellement. Aucune. Elle serait condamnée dans l'œuf, si je puis dire, dans le germe. Et les conséquences sociales que nous voyons de l'idéologie actuelle sont évidemment la perte d'emploi, la perte du développement. C'est-à-dire que la conséquence... Les gens disent qu'il faut continuer à faire du développement durable. Mais ils ne se rendent pas compte que le concept conduit inexorablement au déclin et à la disparition des emplois. Il n'y a pas d'emploi possible, il n'y a pas de développement social possible on continue avec une perspective de développement durable dans ce sens-là.
Alors justement, le développement durable, ça nous ramène à un vieux débat qui est celui de Laurent-Arthur Duplessis, du Club de Rome et de l'épuisement des ressources. Et les économistes un peu compétents ont tout de suite dit « Mais écoutez, vous ne pouvez pas extrapoler l'évolution des consommations des matières premières parce qu'il faut tenir compte du prix. » Le principe de l'économie, c'est la rareté. L'économie, c'est la science qui étudie la rareté. et la manière de répondre à la rareté. Donc, s'il y a une rareté croissante, le prix va augmenter, et donc les gens vont moins en consommer. L'obscurantisme, la rareté du plastique, en économie, et dans les matières dont nous parlons, qui, du point de vue économique, n'est-il pas justement que l'on met de côté le facteur prix dans les décisions économiques, ce qui est inouï, puisque sans référence au prix, on peut dire n'importe quoi.
Alors, ça pose d'ailleurs le problème de l'absence d'interdisciplinarité, parce que ces scientifiques-là, s'ils avaient eu un peu de culture économique, se seraient sans doute prémunis contre ce genre d'erreur-là. Et je crois aussi qu'il y a une crise de l'audace, justement. Vous parliez de la tyrannie du principe de précaution. Mais au fond, si on regarde le génie de l'Occident, parce que c'est tout de même bien l'Occident hein, qui a inventé la civilisation, qui a inventé les sciences. Enfin. Le génie de l'Occident, je dirais qu'il était...
Les Grecs avant l'Occident, mais l'Occident...
Oui, non,
était...
disons,
les Grecs font partie de l'Occident.
Et, ouais. Voilà, oui, enfin disons le génie indo-européen, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Bon. Eh bien, je crois que le ressort de ce génie, c'était l'audace.
Oui. Bien sûr.
Et nous vivons une crise de l'audace.
Oui.
C'est-à-dire que nous avons un égalitarisme délirant, nous avons un goût de la sécurité absolument démesuré, et donc nous avons tué l'audace. Mmh. Et l'audace, elle s'exprime aussi bien dans le courage physique que dans le courage intellectuel, dans le courage politique. Et il y a une crise de l'audace. Et cette crise de l'audace est intimement corrélée à l'égalitarisme tyrannique qui infeste les esprits. Je crois que tout vient de là.
Bernard Bozami.
Je vais me permettre de vous lire
Radio
un petit poème qui résume ce point de vue. Un pauvre ingénieur, tout couvert de lauriers, victime du progrès aussi bien que des plans, quittait Pôle emploi, marchant à pas pesant, et tâchait de gagner son usine désertée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de labeur, il met bas son dossier et songe à son malheur. Quels emplois a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? La précaution partout, l'économie prônée, les hausses de charges, les impôts augmentés, l'énergie à sauver et les bilans carbonés lui font d'un malheureux la peinture achevée. Appelle Delphine Bateau, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à changer cette ampoule, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes.
Ah, c'est superbe. C'est du La Fontaine, ça, du La Fontaine revu par Bernard Bozami.
C'est moins bien que l'original, mais j'ai fait de mon mieux.
Ah, mais vous l'avez publié dans la lettre de la SM, il me semble.
Ça sera dans la prochaine.
Ça sera dans la prochaine. Alors, comment fait-on pour s'abonner d'ailleurs à la lettre de la SM?
Bah, il faut le demander, c'est gratuit.
Ah bah attendez, alors vous allez avoir un millier de demandes. Hein.
Je ne demande pas mieux.
Vous allez vous ruiner. Non, alors, c'est... Alors, justement, vous parlez des ampoules, je vous signale, ça c'est un sujet d'actualité, qu'à partir du 1er janvier prochain, on ne pourra plus trouver aucune ampoule à filament.
Mais la question est, pourquoi est-ce que personne n'a déféré une telle loi devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour de justice européenne? Elle aurait été recalée tout de suite.
Ah ça, non, la Cour de justice européenne, non. Elle est pleine de bienveillance à l'égard de toutes les décisions aberrantes qui sont prises par la Commission européenne et les gouvernements complaisants. Non, donc là nous avons maintenant un surcoût absolument considérable, qui est motivé simplement par le but de réduire la consommation d'électricité.
Hein ? Ouais.
Christian Girondeau nous a fait remarquer à l'antenne qu'on n'avait pas pensé à une chose, c'est que pendant toute la saison où l'on se chauffe, qui est quand même 6 mois de l'année, hein, eh bien, il faudrait compenser. C'est-à-dire que si on remplace l'ampoule à filament qui dégage beaucoup de chaleur par rapport à la lumière, par une ampoule qui dégage moins de chaleur, pour avoir la même température, il faut augmenter le chauffage électrique, alors c'est encore ou le chauffage à gaz ou le chauffage à fioul, et donc finalement on perd d'une main ce qu'on gagne de l'autre.
Oui, mais tout ceci est absurde dès qu'on le gratte un peu, mais
j'arrive
pas.
Les ampoules thermofluorescentes, je crois, elles contiennent du mercure. Alors le mercure, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même assez polluant, le mercure, hein, c'est une saloperie. Bon, eh bien, il faut dire, vous devez acheter des ampoules remplies de mercure, mais ensuite, quand elles sont consommées, quand elles sont brûlées, vous devez les rapporter quelque part. Où ça ? On ne sait pas très bien. Rapportez là où vous les avez achetés, sans doute. La plupart des gens ne le feront pas. Ils les mettront directement à la poubelle. Bon. Et donc, on va augmenter la pollution de manière considérable.
Oui, bien sûr. Bon. Mais tout ceci est irrationnel. C'est... Dès que vous quittez la règle logique, vous tombez dans des aberrations. Donc, toutes ces lois sont totalement irrationnelles et absurdes. Mais de manière plus générale, à chaque fois que vous faites une chose comme celle-là, que vous décidez que vous ne produirez pas quelque chose ou que vous limiterez quelque chose, c'est fait ailleurs. C'est-à-dire que les usines vont partir. Elles vont partir en Afrique du Nord, vont partir en Asie du Sud-Est, vont partir où elles vont pouvoir. Ce qui fait que c'est produit dans des conditions bien moins bonnes qu'en France et nous avons perdu les emplois. Alors on arrive maintenant, la France consomme de plus en plus d'électricité, mais alors, l'augmentation n'est pas si forte qu'avant. Tout simplement parce qu'on a perdu les industries. Elles sont parties ailleurs. Le jour où on voudra réindustrialiser, ben, il faudra accepter que ces industries en question polluent un peu. Enfin, apporte des gènes. Enfin, si vous avez une usine, il y a des camions qui rentrent, des camions qui sortent, des ouvriers qui viennent travailler et puis consomment de l'électricité. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas de camions, ben, il n'y aura pas d'usine non plus. Et puis il y aura des jeunes filles qui vont pédaler auprès, au pied des éoliennes. Voilà. L'avenir qu'on nous prépare.
Ça peut être très joli.
Ça peut être très joli. C'est champêtre.
Je vois, j'imagine très bien Jacqueline pédalant au pied des éoliennes.
Je ne suis pas contre.
Ce serait ravissant. Ce serait merveilleux, Jacqueline.
Je ne suis pas contre, mais ça ne suffit pas à procurer du travail à 30 millions de chômeurs. Je suis désolé, je ne suis pas impoli avec vous en disant ça.
Non, mais là, je suis très malheureux, c'est pour les ampoules.
C'est odieux.
Et
vous savez d'ailleurs que j'ai eu cette réflexion mélancolique parce que ces ampoules ont quand même les nouvelles ampoules ont quand même l'avantage de durer plus longtemps que les autres.
Bon, ça c'est pas évident.
J'ai changé il y a quelque temps l'ampoule de ma cave et je me suis dit j'ai fait un calcul de calcul de probabilité qui me conduisait à penser que comme en général la cave est éteinte, enfin mon ampoule me survivrait. C'est-à-dire, j'ai changé une ampoule en me disant que cette ampoule vivrait après moi.
Où va se nicher le sentiment d'éternité.
Et ça m'a rendu très mélancolique. Hein.
De votre mort, le développement durable, toutes vos ampoules.
Le développement durable, c'est pour l'ampoule, mais pas pour moi, vous voyez. C'est quand même assez...
J'ai vu des choses aussi amusantes que ça. Et
il est sadique, hein.
Le précédent président d'aéroport de Paris a eu des ennuis parce qu'il y a eu de la neige. On lui a reproché.
Qui était d'ailleurs notre camarade de promotion aussi, oui, de Pierre Graff, l'école polytechnique. Oui. Qui était un garçon très bien.
C'est un garçon très bien. Il a eu quelques ennuis avec son ministre à une époque parce qu'il y a eu de la neige pendant plusieurs jours. Et il n'y avait pas assez de glycol pour déneiger les avions. Donc, il a acheté une énorme cargaison de glycol. On l'a mis en demeure d'acheter plein de glycol. Alors, il a acheté plein de glycol. Sauf que le dimensionnement du stock de glycol a été prévu pour des chutes de neige toutes les 100 ans. Et le glycol ne dure que 2 ans. Il est périmé au bout de 2 ans. Donc, si maintenant, vous voulez acheter du glycol, je crois qu'il y en a un très grand stock auprès d'Aéroport de Paris. C'est le moment.
C'est vraiment incroyable. Non, mais les décisions aberrantes qui sont prises pour des raisons politiques, mais pas seulement, sont tellement nombreuses qu'on peut en faire...
Elles sont très nombreuses, oui.
Et nous sommes dans un domaine où il n'y a pas de rationalité, il faut bien le dire. La décision oublie une rationalité qui est purement électorale, purement médiatique, qui n'est pas la vraie rationalité de la décision politique. Voilà.
Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'évaluation des politiques publiques. Et en principe, il y a une cour de discipline budgétaire. Quelqu'un qui prend une décision comme celle-là, il devrait être traduit en justice.
Je propose de terminer notre discussion avant la lecture de la chronique des auditeurs par quelques mots sur le GIEC. Alors le GIEC, c'est cette officine mondiale qui est en fait un département de...
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Le temps que M. Delesquin trouve...
L'OMM, c'est l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM. Et le GIEC en est en fait une émanation ou un département. Et le GIEC prépare son énième rapport. Et il y a eu un grand scandale parce qu'on a révélé que dans la première version du rapport... Les experts, ô combien experts, avaient découvert que le réchauffement climatique, qui d'ailleurs n'a pas lieu depuis 1998, enfin qui a atteint un sommet en 1998, d'après les chiffres du GIEC lui-même, eh bien, serait peut-être dû à l'effet du soleil. Alors la grande découverte, ça serait vraiment extraordinaire que le soleil puisse être la cause du réchauffement climatique.
C'est extraordinaire.
C'est quand même extraordinaire. Ouais. Et bon, je n'entre pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais il faut quand même que les gens qui écoutent ces stupidités qu'on lit tous les jours dans le monde sous la plume de Stéphane Foucard à propos du réchauffement climatique sachent que, considèrent qu'historiquement en France, il y avait à l'époque de Louis XIV un petit âge glaciaire.
Mais pardon de vous couper.
C'était
un journaliste. La culpabilité des journalistes en pareil cas ne fait aucun doute. Oui, peut-être oui. Puis-je me tourner vers mon voisin et lui demander de
Stéphane Fouquet en particulier, qui est d'ailleurs un excessite pour April Lysenko.
Je mettais en cause les scientifiques tout à l'heure, mais les journalistes ont aussi leur...
Donc quand vous pensez à la température d'aujourd'hui en France, et pas la température d'aujourd'hui, la température de l'année, moyenne de l'année, avec ses chauds et ses froids et ses chauds, songez, ou c'est haut, c'est bas, songez qu'il faisait évidemment beaucoup plus froid pendant le petit âge glaciaire à l'époque de Louis XIV, donc, qui est mort en 1715, je vous le rappelle. Et donc par rapport à ce petit âge glaciaire, il y a forcément un réchauffement climatique, c'est évident. Mais en revanche, par rapport à ce qu'on a appelé l'optimum médiéval, entre parenthèses, si on parle d'optimum médiéval, c'est qu'en fait le réchauffement climatique serait une bonne chose, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire à l'époque du 9e, 10e siècle, il y a 1000 ans, à l'époque où le Groenland a été découvert et où on lui a donné en danois le nom de Groenland, ce qui veut dire en anglais Greenland, la terre verte, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Voilà, il faisait plus chaud à l'époque.
Les Vikings ont élevé des vaches laitières au Groenland.
Oui. Mais Monsieur Duplessis, parlez-nous des journalistes. Alors,
eh bien, je suis extrêmement sévère à l'encontre des journalistes.
Comme moi, des scientifiques, oui, avec notre propre corporation.
Ils sont l'expression même du politiquement correct, de l'économiquement correct, etc. C'est-à-dire d'une idéologie dominante dont ils sont les perroquets.
Pensez-vous qu'un journal qui essaierait de faire triompher la vérité scientifique aurait zéro lecteur?
Il
aurait beaucoup de lecteurs, oui. Donc le marché ne fait pas son rôle, alors.
Le marché...
Il est distordu par les patrons des médias.
Le marché permet l'existence de Radio Courtoisie, qui est la seule radio vraiment libre, et qui peut être libre parce qu'elle est financée uniquement par ses auditeurs.
Et je vais lire. Rendons hommage à Radio Courtoisie.
La chronique du courrier des auditeurs, préparée par Amandine. Je commence par un généreux auditeur de Sartrouville, dans les Yvelines, qui envoie 1000 euros. Ouvrier fraiseur conventionnel dans la mécanique générale. J'ai pris ma retraite à 60 ans et 4 mois, comme la loi me faisait obligation. Je profite de mon indemnité de départ pour vous faire ce don et apurer environ 15 années d'écoute dite clandestine. Je ne sais pas si mes finances à venir me permettront un nouveau geste, mais j'avais à cœur de régler ce que je considère comme une dette. Le faible niveau d'études, la lecture depuis toujours, puis l'écoute de vos émissions sont mes universités. Que Radio Courtoisie ne soit pas seulement la radio de toutes les droites et de tous les talents, mais aussi celle de la droiture, à la fois citadelle et conservatoire de nos valeurs, de ce que nous sommes dans une société où je ne me reconnais plus. Bonne et heureuse année à tous. C'est beau, hein ? Bernard Bonamy, hein ? Merci, cher auditeur. Vraiment, votre geste nous touche tous. C'est vraiment beau ce que vous faites. Hein. Merci de penser à votre radio.
Un auditeur de Paris qui envoie 45 euros. En cette année, en cette période de fin d'année, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2013. Je régularise modestement et pour la première fois ma cotisation.
Une auditrice de Paris qui envoie 40 euros. Chère radio, voici ma deuxième cotisation pour 2012. En espérant que cela vous aidera et vous permettra de passer 2013 haut la main.
Un couple d'auditeurs de Paris qui envoie 40 euros. Chère radio, à l'approche de Noël, je viens vous offrir ma petite offrande en espérant pouvoir vous donner plus l'année prochaine. Je vous transmets tous mes bons vœux et un bon Noël à tous.
Une auditrice de Deauville dans le Calvados qui envoie 50 euros. Voici ma modeste contribution pour l'année nouvelle, avec tous mes vœux de réussite à notre formidable radio.
Une auditrice de Seine-Maritime, qui envoie 60 euros. Fidèle auditrice de votre radio si courtoise, dont j'apprécie chaque jour la compagnie, je vous adresse ma cotisation. Avec toute ma sympathie, je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2013, enrichissante pour tous.
Un généreux auditeur de Paris qui envoie 3000 euros. Avec ce simple mot, Joyeux Noël! Eh bien, c'était très gentil et nous sommes extrêmement touchés de votre geste, cher ami, et... je vous dis, joyeux Noël, c'est un peu tard, mais je vous dis, bonne année, il est temps. Une très bonne année pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers. Jacqueline.
Un auditeur et ancien patron d'émission de Radio Courtoisie, de Bièvre, dans l'Essonne, qui envoie 50 euros. Joyeux Noël à tous et que Dieu vous garde.
Alors, on ne dit pas le nom des auditeurs, mais comme c'est un patron d'émission qui a quitté son émission récemment, eh bien, je crois qu'on pourra deviner qui c'est. Une auditrice de Paris qui envoie 150 euros. Joyeux Noël et bonne année à toute l'équipe de Radio Courtoisie.
Un couple de généreux auditeurs du Vésinet dans les Yvelines qui envoie 1000 euros. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et nous vous assurons de notre vive reconnaissance.
Un couple d'auditeurs de Paris qui envoie 50 euros. Chers amis de Radio Courtoisie, belle et sainte fête de Noël. Que cette année nouvelle soit l'aube d'une renaissance de la France, débarrassée peu à peu de ses soucis. Chaleureux merci pour la présence fidèle de chacun.
Un auditeur de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne qui envoie 100 euros. Bonne année à tous les patrons d'émission de Radio Courtoisie.
Une auditrice de Paris qui envoie 200 euros. Bon courage à tous et bonne et sainte fête de Noël.
Un auditeur de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines qui envoie via PayPal 50 euros. Voici une cotisation supplétive. Très bon Noël à toute l'équipe de Radio Courtoisie. Merci pour tout ce que vous faites pour la France et la chrétienté.
Un couple d'auditeurs de Buzzville dans l'Eure qui envoie 200 euros. Chers amis, je vous appelle ainsi, chers amis, car je vous écoute tous les jours, que vous faites partie de mes proches. Vos émissions variées sont toujours très intéressantes et très instructives. La musique et tous les écrivains que vous recevez sont passionnants. J'achète très souvent les livres dont vous parlez. Tout cela fait que votre radio est admirable et exceptionnelle. Tous mes vœux et tous mes remerciements à tous les bénévoles et patrons d'émission qui participent au fonctionnement 24 heures sur 24, j'ajouterai avec l'aide des techniciens. Les rediffusions sont également très appréciées. Joyeux Noël à tous et que Sainte-Jeanne d'Arc continue à protéger la France et Radio Courtoisie.
Un généreux auditeur de Nantia, dans la Haute-Vienne, qui envoie sa cotisation via PayPal de 500 euros. Très joyeux Noël à tous ceux qui font Radio Courtoisie. Que l'année 2013 vous permette d'augmenter significativement le nombre de vos donateurs afin de mener à bien vos projets de développement.
Eh bien, merci, chers amis auditeurs. Merci pour tous ces témoignages de soutien et d'amitié. Nous avons, sommes très, très émus par tous ceux qui donnent d'importantes cotisations, des dons importants en fonction de leurs moyens. Mais je dois dire, j'étais particulièrement ému par cet auditeur dont j'ai lu le message en premier, la lettre en premier, puisqu'il a profité, si je puis dire, de sa retraite pour régulariser, comme il dit, et profiter de son indemnité de retraite pour envoyer 1000 euros alors qu'il était ouvrier fraiseur conventionnel et que sa retraite n'est certainement pas considérable. Alors si vous ne cotisez pas jusqu'à présent, songez à tous ceux qui, ayant moins d'argent que vous, peut-être, eh bien, ont ce sentiment de nécessité. La radio n'existe que par ses auditeurs. Je ne le répéterai jamais assez. Radio Courtoisie est la seule radio au monde qui ne vit que grâce à ses auditeurs. Toutes les autres radios sont financées par des subventions diverses et variées et sont financées par des ressources publicitaires. Nous n'avons aucune ressource publicitaire par principe, parce que sinon nous ne serions pas libres, et aucune subvention pour la même raison. Mais pour nous développer, et nous avons besoin de nous développer, tout à l'heure, notre ami Jean-Yves Le Gallou, dans son message radiophonique enregistré, disait « Mais il faut aussi numériser tout le patrimoine des émissions de Radio Courtoisie depuis 1987. Il faut le faire. Et nous le faisons au fur et à mesure de nos possibilités, mais nous sommes arrivés, nous sommes déjà très contents, à avoir tout numérisé depuis le 1er janvier 2012. Toutes les émissions sont en ligne depuis le 1er janvier 2012. Alors que le nouveau site et la diffusion à la demande ont commencé le 10 mai. Mais ça veut dire qu'en 6 mois, nous avons progressé de 3 mois. C'est-à-dire qu'il nous faut en fait 2 mois de travail à l'équipe des techniciens et à l'équipe de Radio Courtoisie en général pour arriver à gagner rétroactivement 3 mois dans les émissions du passé. Et il nous faudra donc théoriquement 50 ans si nous n'avons que nos propres moyens actuels pour tout numériser, et j'aimerais bien que nous puissions le faire plus vite, et pour ça j'ai besoin évidemment de l'aide des auditeurs de Radio Courtoisie s'ils veulent que nous puissions faire concurrence à ceux qui archivent les émissions.
Justement, j'ai une question. J'ai une question. L'émission de ce soir va-t-elle être disponible, enregistrée quelque part, malgré l'adage de Montesquieu qui disait « La nature a sagement pourvu à ce que les sottises des hommes fussent passagères
». Votre modestie nous font plaisir, mais toutes les émissions sont disponibles sur le site de Radio Courtoisie, à la demande. C'est gratuit, c'est libre pendant une semaine. Alors ce sera pas tout de suite, ce sera demain, je pense, demain soir. Dans les 24 heures, au bout de 24 heures, c'est mis en ligne et disponible à la demande librement pendant une semaine.
D'accord.
Et ensuite pour les auditeurs inscrits, toutes les émissions sont disponibles pour les auditeurs qui sont inscrits sur le site. Je vais rapidement finir notre tour de table avec Jacqueline. Alors 40 euros, c'est la cotisation minimum. Jacqueline, il nous reste 30 secondes pour dire que la déduction fiscale est de 66% et que l'on peut même s'abonner à l'écoute de Radio Courtoisie si l'on ne veut pas donner au quotidien, ce qui n'est pas bien, mais ce qui est votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez quand même recevoir à l'écoute de Radio Courtoisie notre lettre d'information. Et vous pouvez surtout, pour régler votre cotisation, le faire soit par chèque, soit par Internet, soit par prélèvement automatique. Et dans tous les cas, il y aura un reçu qui vous sera envoyé correspondant à vos versements. Merci Laure-Arthur Duplessis, merci Bernard Bozami, merci pour tout ce que vous faites, notamment pour ce que vous avez fait aujourd'hui à l'antenne de Radio Courtoisie. Merci chère Jacqueline, merci Benoît.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal d'Henri de Lesquin, assisté de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct lundi 31 décembre 2012 de 18h à 21h. Il sera diffusé en différé mardi 1er janvier 2013, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie, ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes au lieu du CD-ROM pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour le CD-ROM, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.